OK, 16h23, ce coronavirus, comment s'appelle-t-il? SARS-CoV-2, oui, qui cause la COVID-19 ouais. Quand il y a des complications, et complications qui peuvent finir avec des décès, malheureusement. Les scientifiques en apprennent chaque jour sur ce coronavirus, ce qu'on pensait être vrai la veille est peut-être plus vrai aujourd'hui. J'exagère à peine et on va en parler tout de suite avec Nathalie Granvaux, qui est présidente de l'Association canadienne de virologie et professeure au département de biochimie et de médecine moléculaire à l'Université de Montréal. Docteur Granvaux, bonjour.
Bonjour.
Écoutez, d'abord, avant de parler des particularités du virus et d'un éventuel possible, peut-être hypothétique vaccin pour le combattre, j'aimerais qu'on parle de la stratégie de déconfinement qui est préconisée par le gouvernement du Québec. Est-ce que vous êtes d'accord avec la façon dont le gouvernement prévoit faire les choses?
Ben, je dirais que oui. Premièrement, pour deux raisons. La première, c'est qu'ils ont annoncé l'intention, si les choses suivent le cours qu'ils espèrent que dans deux, trois semaines maintenant, hein, ça nous fait le 11 mai, je pense, en région et 19 mai pour Montréal. Donc, ils nous laissent suffisamment de temps pour préparer les choses. On parlait d'éducation, mais aussi de mise en place de programmes, en fait, de protection des infections dans les entreprises où les gens vont retourner. Et puis aussi, c'est le côté graduel du déconfinement. On déconfine pas tout le monde du jour au lendemain. Cette notion de que ce soit graduel est extrêmement importante.
Une démarche importante dans le monitoring, si on veut, dans la surveillance du déconfinement, ça va être de tester. Et tester pour voir s'il y a des éclosions qui sont liées au déconfinement. Est-ce que vous avez confiance dans la capacité du système de santé québécois de faire des tests à grande échelle?
Ben, c'est peut-être le point qui me tracasse le plus, cette capacité de tester, surtout que pour le moment, on parle encore de tester les gens symptomatiques, mais il va falloir étendre aux personnes asymptomatiques. On sait que les personnes asymptomatiques sont des personnes qui peuvent transmettre, et donc identifier ces personnes-là, pour le moment, on le fait toujours pas parce qu'on n'a pas la capacité de le faire, mais être capable d'augmenter nos nombres de tests par jour pour pouvoir inclure les personnes asymptomatiques, j'ai un doute au jour d'aujourd'hui qu'on soit capable de le faire. C'est sûr qu'il y a des programmes pour développer nos capacités. Où est-ce qu'on sera rendu dans deux semaines ou trois semaines? Oui. Ça reste à voir.
Docteur Granvaux, est-ce que cette difficulté à tester, c'est une particularité québécoise ou on a constaté ça ailleurs?
Non, c'est assez universel. On travaille, nous, par exemple, sur un programme au CHUM depuis déjà un peu plus qu'un mois. Maintenant, en fait, dès le début de la pandémie, sur des écouvillons 3D pour pallier au manque des écouvillons traditionnels qu'on utilise. Donc, c'est bien avancé, mais c'est pas complètement final. Et puis, il y a beaucoup d'autres personnes qui travaillent là-dessus. Aux États-Unis, ils sont dans la même situation que nous. On a des contacts avec des gens en France aussi qui sont aussi à la recherche de solutions alternatives. Donc, non, c'est pas particulier au Québec.
La Corée du Sud, dit-on, a des capacités de tests qui sont absolument ahurissantes, extrêmement efficaces. Qu'est-ce qui explique qu'en Corée du Sud, on est si efficace?
Je ne connais pas la situation particulière de la Corée du Sud. Je ne sais pas s'ils ont des usines de fabrication d'écouvillons. Mon souvenir du tout début de la pandémie, c'était que les usines qui fabriquent les écouvillons traditionnels sont en nombre limité et donc fournir pour la planète entière est une chose. Est-ce qu'en Corée du Sud, ils ont des usines qui les fabriquent et donc ils s'autosuffisent peut-être? Je pense que là, on revient à développer notre autonomie nationale sur la production de ce genre d'équipements d'hôpitaux pour le futur aussi, pour plus se retrouver dans cette situation-là.
Philippe Quentin, une question pour vous.
Docteur Granvaux, dites-moi, pourquoi c'est si compliqué tester? Tu sais, au début, le gouvernement nous disait, bon, il manquait, vous l'avez évoqué vous-même, là, il manquait de matériel, puis il y avait des difficultés. Mais là, on nous dit que ça, c'est passablement réglé. Là. Pour le matériel, on est OK. Mais pourtant, encore aujourd'hui, M. Arruda disait, ben là, aujourd'hui, on est à peu près à 6 000 tests par jour. On va peut-être pouvoir monter à 14 500 la semaine prochaine. Plus tôt cette semaine, il a même parlé tout à coup de 20 000 ou 30 000 tests par jour, ce qui semble beaucoup. Mais pourquoi c'est si compliqué?
Ben, premièrement, parce qu'il y a premièrement, il y a les prélèvements qu'il faut faire. Donc, il faut avoir des personnes pour prélever les échantillons sur tous les patients. Donc ça, ça prend de la capacité humaine. Ensuite de ça, chaque étape, en fait, pour faire le test qui est fait actuellement, nécessite aussi, il y a des parties qui sont robotisées, qui sont automatisées, mais il y a quand même on n'en parle pas beaucoup de ces gens-là, mais les techniciens de laboratoire qui travaillent dans les laboratoires de diagnostic sont extrêmement sollicités en ce moment. Et puis après, ben, il y a les réactifs et les kits, comme on dit, pour faire l'expérience en soi. Il y a des parties qui ont été réglées, mais après ça, il y a aussi une question de fourniture par les compagnies qui vendent ça. Il y a des alternatives qu'on a trouvées pour développer des réactifs dans les institutions avec des recettes qui ont été testées au laboratoire national de microbiologie pour valider tout ça. On trouve des alternatives au fur et à mesure. Les chaînes de production de ces tests-là n'ont pas non plus augmenté à l'infini. Il y a une limite à ce qu'on peut produire et chaque étape, en fait, a des facteurs limitants.
Docteur Granvaux, il y avait un article absolument fascinant aujourd'hui dans le New York Times sur tout le processus de fabrication d'un vaccin en général. Et oui. Je dirais que cet article-là m'a remis les trous en avant des yeux, comme on dit en québécois, parce que on parle souvent d'un délai de 18 mois pour arriver avec un vaccin contre le coronavirus. Et il est possible qu'on n'ait jamais de vaccin contre ce virus-là, non?
Vous avez tout à fait raison. On n'a aucune garantie que d'essayer de faire un vaccin va fonctionner. Il y a des tests dans l'histoire d'essayer de développer des vaccins contre certaines maladies qui ont pris extrêmement beaucoup de temps. Je prends un exemple pour un virus sur lequel nous on travaille au laboratoire, qui est le virus respiratoire syncytial, qui touche beaucoup les enfants prématurés. Pour l'instant, il n'y a toujours pas de vaccin contre ce virus-là qu'on connaît depuis 50 ans, 60 ans. Mmh. On n'a toujours pas de vaccin. Donc, par contre, ce qu'il faut dire, c'est que souvent, il y a une question aussi d'investissement en recherche, il y a une question d'intérêt aussi pour fabriquer un vaccin pour des populations qui sont plus limitées en nombre et on s'entend qu'il y a des fois des intérêts financiers. Ici, en fait, toutes les énergies, tous les financements possibles sont mis sur la table pour pouvoir développer un vaccin. Donc, cette limite-là n'existe plus. Donc, c'est sûr qu'on vient d'éliminer un certain nombre de paramètres qui font que souvent, ça s'étend. Mais après, il y a une réalité biologique qui fait en sorte que la biologie détermine si ça fonctionne ou pas.
Mais dans la situation actuelle, là, est-ce que ça serait un risque, par exemple, de faire moins d'essais cliniques? Parce que dans l'article, on explique bien que généralement, il y a trois phases d'essais cliniques. Mm-hmm. La première, c'est quelques douzaines de personnes. Après ça, on passe à quelques centaines de personnes. Et la dernière phase, beaucoup plus tard, quelques milliers de personnes. Mais là, oui. J'imagine qu'on va vouloir aller plus vite. Est-ce qu'on va escamoter des étapes avec les risques potentiels de cette stratégie-là?
Ben écoutez, c'est ce qui est proposé notamment dans l'article et en fait pour essayer de voir les phases qui sont compressibles, c'est sûr que ces phases-là, en fait, pour expliquer à tout le monde, c'est la phase où on a un vaccin expérimental puis on commence à le tester sur des êtres humains. Donc vous imaginez que vous savez, les gens ont beaucoup parlé de servir des enfants ces temps-ci là comme cobayes. Ben en fait, les gens qui acceptent de se faire injecter un vaccin servent un petit peu de cobayes pour protéger tout le reste de la population. On y va habituellement par phase, donc quelques patients, puis ensuite on étend le nombre comme vous l'avez expliqué. Là, on pourrait aller plus large, mais il faut premièrement qu'il y ait des volontaires pour ça, qui acceptent de se faire injecter un vaccin qui peut avoir des effets secondaires tant qu'il est à l'étape expérimentale. Donc, ça pose des problèmes éthiques aussi. Et puis effectivement, ces gens-là qui vont accepter vont prendre un peu plus de risques que ce qu'on fait d'habitude.
Dites-moi, Nathalie Granvaux, vous êtes présidente de l'Association canadienne de virologie, oui. Professeure de biochimie, médecine moléculaire. Les virus, vous connaissez. Dans l'article du New York Times, on parlait là, du fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'organismes, de compagnies qui émettent des communiqués de presse et qui disent, écoutez, on travaille sur un vaccin, on travaille sur un remède et on a un bon feeling, ça devrait bien fonctionner. Vous qui êtes une experte, là, quand vous voyez des nouvelles semblables, qu'est-ce qui fait que vous vous dites « ceci n'est pas sérieux » ?
Ben écoutez, pour que ça soit sérieux, il faut des données solides, il faut des données, des preuves scientifiques qui montrent que ça marche. On a entendu depuis le début de cette pandémie plein d'observations sur un nombre très limité de patients qui disaient telle ou telle chose ou telle drogue fonctionne ou telle autre fonctionne pas. Mais il faut des études solides faites à une échelle raisonnable, c'est-à-dire un certain nombre de patients pour pouvoir émettre des conclusions qui vont être reproductibles d'un patient à l'autre. C'est ce qu'on fait d'habitude études en sciences, puis là, on a des feux de paille beaucoup. Je comprends que tout le monde veut apporter sa solution, mais il faut faire très attention à ça. Puis le point auquel je dirais qu'il faut faire très attention, c'est surtout que la crédibilité scientifique par rapport au public peut en prendre un coup si on ne fait pas attention à ce qu'on prétend faire. Et les solutions qu'on apporte.
Et là, vous parlez des gens qui font miroiter des solutions rapides?
Mm-hmm. Ben oui, parce qu'en fait, ils les font miroiter des solutions rapides basées sur des faits qu'ils n'ont pas, en fait, ou sur des préliminaires de données. Et il faut, à mon avis, rester sur des conclusions qui sont basées sur des faits, des données probantes, comme on dit. Il faut avoir des données scientifiques solides avant de se prononcer et donner de l'espoir. C'est quand même assez important.
Docteur Granvaux, est-ce que vous trouvez ça frustrant de voir que notre connaissance de ce coronavirus évolue et change souvent sur plusieurs aspects là, du mal, souvent, je ne veux pas dire du jour au lendemain, mais souvent d'une semaine à l'autre?
Ben, frustrant, oui, dans le sens où on aimerait avoir des faits où on pourrait se baser dessus, justement, pour pouvoir proposer une thérapie qui soit efficace. Ce virus-là, pardon, est un virus qui nous réserve énormément de surprises. Il y a une chose aussi, c'est qu'il faut qu'on pense en dehors du cadre habituel. Il faut arrêter de se dire c'est un virus respiratoire, il fonctionne comme les autres virus respiratoires. Il faut sortir de ça. Puis comme je dis souvent à mes étudiants en laboratoire, observez. Nos médecins font ça très bien en ce moment, de rapporter des faits qu'ils voient, qui sont différents de ce qu'on voit d'habitude avec un virus respiratoire. Et ça alimente la recherche. Fait qu'on a en ce moment quelque chose d'assez extraordinaire qui est la communication entre la médecine et la recherche qui est encore plus proche qu'elle l'a jamais été. Et ça peut que nous faire avancer plus vite, par contre.
Est-ce que je me trompe ou le coronavirus est de moins en moins considéré justement comme un virus qui attaque le système respiratoire, mais le corps au complet?
Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que oui, c'est un virus respiratoire parce que c'est par là qu'il rentre, mais ça a l'air... La pathologie associée a l'air d'être une pathologie beaucoup plus systémique, qui touche beaucoup plus d'organes que juste le poumon. Et ça change beaucoup la perspective dans le type de traitement qu'on peut proposer. Donc ça, c'est un des exemples qui nous vient de l'observation faite par les médecins et qui remonte en recherche. Exactement.
Merci beaucoup pour ces informations. C'est très éclairant, professeur Granvaux.
Merci à vous. Bonne journée.
C'était Nathalie Granvaux, présidente de l'Association canadienne des virologies et professeure au département de biochimie et de médecine moléculaire à l'Université de Montréal. Tu sais, Philippe, j'ai dit éclairant, mais c'est frustrant aussi parce qu'on aimerait tellement avoir des réponses rapides. On est habitué dans des pays avancés comme les nôtres, technologiquement, scientifiquement, médicalement, à avoir une forme de soulagement, je ne veux pas dire rapide, mais qui est toujours au bout du chemin, tu comprends?
Mais
Non.
On est en pleine découverte. Il y a du nouveau tous les jours et ça complexifie de beaucoup le dossier.